Histoire des îles Marquises, de Akakayo te Henua Enana, te Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, ka oha nui et bienvenue dans cette 51e émission,
édition 2023.
La dernière année que nous avons survolée, c'était 1863, une année terrible pour le peuple Enan, qui en même temps qu'il voyait toute sa culture interdite par l'Église et l'État, et subissait de plein fouet une épidémie de variole faisant presque 2000 victimes mourant dans d'atroces souffrances. Ce peuple donc a vu l'année se terminer par la mort de Temoana, chef des Teii de Taiohae et grand chef de l'île de Nukuhiva, tandis que se déclarait une famine causée par la sécheresse. Malheureusement, les années suivantes ne vont lui apporter aucun répit.
Il faudra plusieurs semaines pour que la nouvelle de la mort de Temoana en septembre 1863 arrive à Tahiti. Et ce n'est que le 22 février 1864 que le gouverneur de la richerie rédige un décret stipulant ou ordonnant même, comme il est écrit, que Stanislas Moanatini, fils de Temoana, est reconnu grand chef de Nukuhiva pour jouir de la même autorité et des mêmes honneurs que son père, à compter du 12 septembre 1863, jour de la mort de Temoana. Une pension annuelle de 600 francs est accordée à la veuve de Temoana, Vaikehu, à compter du 13 septembre 1863. Stanislas Moanatini jouira à compter du 13 septembre 1863 d'un traitement annuel de 2000 francs, signé de la richerie à Papeete le 28 février 1864.
En 1864, le 1er mars à Wopo, le père Fulgence Poué signale dans un de ses courriers que suite à l'épidémie de variole, tous les anciens ont disparu, emportant avec eux les restes du paganisme. Le 6 mars, débarquant du navire La Touche-Tréville, Monseigneur d'Ordillon accueille à Taïora et quatre sœurs, dont sœur Anne-Marie Vigroux. Elles sont envoyées de Papeete pour ouvrir une école de filles. Le nouveau règlement permet d'obliger les enfants à fréquenter les écoles des frères et des sœurs. Elles s'établissent alors sur la terre dans une école qui compte presque 80 filles à la fin de l'année. Avec elles arrive aussi le frère Artemas Pfeiffer. Formé à la vaccination, il est muni d'un lot de vaccins qu'il s'empresse d'appliquer à la population des survivants. Le 26 mars, on dénombre 1532 victimes de la variole dans le nord de l'archipel. Le 16 avril, Monseigneur d'Ordillon écrit au commissaire impérial que la situation sanitaire est redevenue normale. Il lui fait état de la présence de 27 garçons à l'école des frères, où il y a même un jeune français et deux américains. Chez les sœurs, 57 filles fréquentent l'école. Le lundi 10 octobre, jour de rentrée scolaire à Taiohae, le frère Stanislas Cochet établit une liste de 40 garçons inscrits pour la nouvelle année. Cette liste, publiée dans le livre du frère Joseph Leport, Les pionniers de l'école aux Marquises, cette liste est très émouvante par sa simplicité. On y voit 40 prénoms marquisiens, sans nom de famille, reflet d'une époque où les gens n'avaient encore qu'un nom usuel. Le 1er octobre, le nouveau commissaire impérial de la Roncière, parti du Havre le 16 juin, fait escale à Taiohae, avant même de toucher Tahiti. Il visite les écoles, qu'il trouvera satisfaisantes dans un courrier adressé à Monseigneur d'Ordillon le 30 mai suivant. En octobre, le chef Ki'ipi'a des Taipi de Vai'i vend la vallée entière de Taipi'vai, y compris les propriétés de la mission à la société Stewart de Tahiti, pour y planter le coton. Nous verrons, en 1868, une autre version de cette transaction. Le 29 novembre, alors qu'il avait dit à Taiohae sa satisfaction des écoles religieuses dans un courrier écrit à son ministre, le commissaire impérial de la Roncière dit que les sœurs obtiennent de meilleurs résultats que les frères, qui sont, et je cite, « peu intelligents et mous ». Et il continue. « J'ai donc le regret de dire que l'argent dépensé par le budget local est complètement perdu, car en sortant de l'école, les enfants redeviennent canaques comme devant, c'est-à-dire comme avant. » Drôle de cohérence pour un gouverneur. En réalité, il fait preuve de manque de confiance face à des personnes entièrement dévouées à leur charge. Cette année-là, le pasteur hawaïen Samuel Kawealoha et son épouse Kuaia Wahia Titihivaoa s'installent à Hakanahi, à Uapo, où ils resteront jusqu'à leur mort en 1909. Cette année-là, la mission de Hivaoa expédie à Tahiti son premier envoi de coton. Cette même année, 1864, est marquée par l'invention du harpon explosif propulsé par canon d'une portée de 50 mètres qui va donner une impulsion nouvelle à la chasse à la baleine. Tandis que le nombre des cétacés diminue dans le Pacifique, les navires baleiniers, eux, sont de plus en plus nombreux à faire escale aux marquises, aggravant la santé physique et morale des enanas. En 1865, au mois de mars, à côté de l'école des sœurs de
Maui,
on commence l'édification de la chapelle Saint-Joseph qui sera achevée en janvier 1869. Elle fera 25 mètres de long, 9 mètres de large et 5 mètres de haut. Il y a 12 colonnes à l'intérieur et une tribune. Ces deux tours de pierre, surmontées de flèches en bois, ont une hauteur de 16 mètres. Dans son livre, La Reine Pomarée, publié en 2003, Bertrand de la Roncière nous dit que la dépense totale s'est élevée à 65 260 francs de l'époque, dont 33 480 francs pour la seule maçonnerie. Cette chapelle servira d'église paroissiale du 6 décembre 1870 à 1974, date à laquelle on commença la construction de la cathédrale et où elle fut démolie, à l'exception de son porche et de ses deux tours, qui forment de nos jours l'entrée monumentale du parvis de l'actuelle cathédrale de Taiohae. En 1865, le 15 avril à Taiohae, le frère Stanislas Cochet, directeur de l'école chrétienne, écrit au résident Rousseau son intention de créer une ferme modèle pour les grands élèves et lui demande de lui accorder le terrain de Hakapehi, ayant pour limite ouest le ruisseau qui longe désormais la partie est de l'hôpital, pour limite sud un mur situé à 200 mètres au-dessus du cimetière, tandis qu'au nord et à l'est le pied des montagnes en serait les limites. Le 30 mai, suite à son passage en octobre, le nouveau commissaire impérial de la Roncière écrit à Monseigneur d'Ordillon qu'il met tout son espoir et sa confiance dans les écoles alors visitées. Il écrit aussi qu'il demande au résident Rousseau d'accorder au frère Stanislas Cochet le terrain qu'il lui avait demandé afin d'y installer une ferme modèle. Ce frère Cochet était un pionnier en matière d'agriculture. 100 ans après, en créant le CED, Centre d'enseignement agricole de Taiohae, le frère Rémy Quinton lui rendait un fervent hommage en suivant son exemple à une échelle de notre temps.
Il est à noter que devant la demande forte de formation agricole, le CED s'est muté en 2022 en lycée agricole Saint-Athanase, connu aussi sous le nom de lycée Tehenua Enan.
Le 5 octobre, le commissaire impérial de la Roncière repasse à Taiohae. Il vient relever Monseigneur d'Ordillon de ses fonctions de directeur des affaires indigènes, dont il remet la charge au nouveau résident Lachave, auquel il recommande les écoles chrétiennes dans lesquelles il voudrait aussi bien voir venir les enfants des autres îles, quitte à leur fournir le logement et la nourriture. Le 27 octobre, après sa visite aux marquises, le commissaire impérial de la Roncière écrit au ministre de la Marine à Paris qu'en raison de l'attitude exagérée de l'Église, il a retiré à l'évêque la gestion indigène et l'a remise entre les mains du résident afin que les lois soient les mêmes pour tous. Il a la mémoire bien courte, ce gouverneur. Il oublie complètement que 2 ans auparavant, la décision d'appliquer le règlement aux marquises et aux marquisiens a été prise conjointement en accord par le gouverneur commissaire de la colonie à Tahiti et Monseigneur, certes, mais les décisions ont été prises en commun et il n'assume pas une partie de la responsabilité de l'État dans la dureté de ces décisions. À la décharge des missionnaires, toujours aussi peu cohérent, de la Roncière reconnaît la simple difficulté de vivre au jour le jour de ces derniers et aussi leur grand dénuement. Il s'en inquiète même auprès de son ministre, estimant qu'ils ne peuvent imposer la religion catholique en étant si démunis et suggère qu'on donne, et je cite, « la ration du soldat à ces soldats de Dieu ». Fin de citation. Afin d'encadrer les enanas par le travail, de la Roncière encourage l'élevage de bovins et ovins, ainsi que la culture du coton devenue rentable en raison de la guerre de sécession et initiée par la mission à Nukuhiva et Hivaoa dès 1863. Le 15 novembre, un arrêté vient officialiser la décision qui abroge le règlement de 1863. En conséquence, une opposition permanente s'installe entre le résident et la mission, cette dernière dénigrant l'action du premier qui, en réaction, encourage les enanas à retourner au paganisme. Au cours de l'année, le révérend protestant Bricknell conduit 19 enatas de Fatuiva à Hawaï pour y être instruit. Malheureusement, 9 y mourront et 5 reviendront en 1867. À ce stade, voici ce que constatent les historiens. Autoriser les enanas à se distraire ne peut que dégénérer faute d'encadrement. Il n'y a quasiment pas d'autorité civile française. Il n'y a quasiment pas d'autorité civile énane. Il n'y a plus de crainte religieuse traditionnelle et il n'y a pas encore de crainte de la nouvelle religion. Comme je le disais il n'y a pas très longtemps, les énanas ont le cul entre deux chaises et malheureusement, ne sachant pas choisir entre l'une ou l'autre, ils ont tendance à s'asseoir au milieu et ils en meurent.
Tatato,
en 1866. Le 25 mai, le commissaire impérial de la Roncière avertit le frère Albert Roper, directeur principal des frères de Ploermel à Tahiti, que le nombre de 12 frères instituteurs à Nukuhiva est réduit à 7 pour des raisons budgétaires. Les 5 frères licenciés rentreront en France en octobre sur le navire La Sibylle. Le 28 mai, le frère Roper écrit à Mgr d'Ordillon la décision prise par de la Roncière. En juillet, M. Laurent est nommé résident pour remplacer M. Lachave qui avait sombré dans l'alcoolisme au bout de 4 mois. Il y a des gens auxquels les marquises ne réussissent pas. Il n'a de cesse, lui aussi, de critiquer la mission. Accusé d'avoir fait mourir sa concubine Hapa'a à force de la maltraiter, il sombre lui aussi dans l'alcoolisme. Et de deux. Le 13 octobre, Mgr d'Ordillon répond au frère directeur Roper qu'il comprend la situation de restriction. Dans ce courrier, on apprend que la somme allouée à la mission passe de 300 000 à 200 000 francs de l'époque par an pour l'île de Nukuhiva, où il ne reste plus que 1000 habitants. Mgr d'Ordillon explique alors qu'il vaudrait mieux, peut-être, installer des représentants de l'Église et de l'État, ainsi que des écoles sur chacune des îles, afin d'être plus efficace. Le 18 octobre, dans une lettre à Mgr d'Ordillon, le commissaire impérial lui signale ce qu'il savait déjà, à savoir qu'en raison d'une diminution d'un tiers de la subvention reçue pour la gestion de la colonie, il est contraint de diminuer le nombre de frères à Taiohae. Il fait aussi remarquer que, faute de résultats probants, ce n'est que justice. Bon. Par contre, il accède à la requête des sœurs de Saint-Joseph de Cluny de maintenir sur place et à la charge de leur communauté les sœurs qui auraient dû rentrer en France avec les frères. Les filles de Nukuhiva peuvent donc poursuivre leur scolarité chez les sœurs. Le commissaire impérial retire aussi la jouissance du magasin général qu'il remet aux résidents, privant ainsi la mission de son église. Et c'est la chapelle Saint-Joseph de
Maui, hein,
en construction, qui devient église paroissiale. Mais elle ne le deviendra officiellement qu'en 1870, au retour de Mgr d'Ordillon de France. À Omoa Fatuhiva, la dysenterie fait 65 victimes. Entre 1861 et 1866, le pasteur hawaïen Zakaria Hapuku, qui vécut 10 ans à Tuona Hivaoa, recense une quinzaine de morts violentes, dont une dizaine est suivie de mise au four. Lisons ce qu'il écrit à ses supérieurs et qui a été rapporté dans le livre de Greg Denning. Je cite. « Le 15 juin 1861, Tiviuta d'Atuona a été mise au four et consommée. Le 12 août 1862, Titiwehi de la tribu des Etuoho a été mise au four par les habitants de Atuona. 10 autres personnes ont pu être sauvées. Le 30 août 1862, Tutepuuu d'Atuona est mise au four par les habitants de Hanamenu. Le 19 décembre 1864, Titihaa est mise au four par les habitants d'Atuona. Le 22 décembre 1864, Peni de Tahiti est tué par balle. Le 26 août 1865, Kaukau est mis au four par les habitants d'Atuona. Le 26 octobre 1865, Teitipatai d'Atuona est mis au four par les Etuoho. Le 18 décembre 1865, Ohaihai de Hanatekuu est mis au four par les habitants d'Atuona. Le 4 janvier 1866, Houpo de la tribu des Ha'amao est mis au four à Hanapateo par les habitants d'Atuona. Le 25 mai 1866, Pehitumoe ou Pehitumoe de la tribu des Ha'amao est mangé par les habitants d'Atuona. Le 9 octobre 1866, Vaitei est tué par son fils à Atuona. Le 28 décembre 1866, Tupipi est tué par le Haka'iki aidé de 2 hommes. Fin de citation. Tout comme pour le père Cholet, en 1863, il est remarquable de constater que Zakaria Hapuku connaissait chacune des victimes par leur nom, ce qui démontre l'intérêt des missionnaires pour leurs ouailles, quelle que soit leur religion. Cette année-là, 1865, une mission protestante est installée à Wahuka et, après le départ de certains frères de Ploermel de Taiohae, la mission abandonne la culture du coton, perdant ainsi une partie de ses revenus. En 1867, le 16 octobre, la direction des frères de Ploermel, siégeant à Tahiti, demande le retour du mobilier et matériel scolaire de l'école ouverte à Patoa 1 an auparavant par le frère Forgeau, qui était même fréquenté par des enfants de Hakaui. Le 24 novembre, le lieutenant de vaisseau Hippolyte est nommé résident pour remplacer M. Laurent. Il dit qu'il veut rétablir l'ordre et fait bombarder Atiheu par le navire Guichen. Mais il interdit aux Enana de travailler pour la mission et même de leur vendre des cochons. Ça continue. À Omoa Fatuhiva, les pasteurs protestants de Hawaï ramènent 5 Enanas sur le navire Titus Kohan, seul survivant des 17 candidats prédicateurs que le pasteur Bricknell avait emmenés à Oahu en 1865 et dont les ossements étaient du voyage. Le Hakaiki Teii Hetofe organise alors une cérémonie de deuil. Les restes des défunts sont placés dans une pirogue qui gagne le large. Le chef fait en plus coïncider cette cérémonie avec l'ultime célébration funéraire du décès de Tawa Hanatiki, la chefesse et Tawa défunte qui avait déclaré l'alcool tapou en 1859. Avec sa mort, Teii Hetofe déclare la fin du tapou et les Enana se remettent à boire. Le commerçant Thomas Lawson, qui voyage beaucoup d'une île à l'autre, évalue la population de l'archipel à 7400 habitants en cette fin d'année 1867. Chers amis, après une année 1863 de souffrance, nous venons de voir les missionnaires catholiques se battre contre l'administration coloniale qui, malgré les consignes officielles d'installer des écoles partout, ne soutient pas leur effort. D'autant moins que sur place, les résidents qui se suivent sombrent dans l'alcoolisme ambiant et se couvrent de ridicule. Mais ce faisant, ils sapent tellement l'action missionnaire qu'en 1869, nous verrons Monseigneur d'Ordillon lui-même se rendre à Rome pour un concile et demander au pape l'abandon de la terre des hommes. Île-de-Fonse est-il KO ? Pour le savoir, ne manquez pas la prochaine émission qui nous conduira jusqu'au milieu des années 1870.
Avant de conclure cette émission, je voudrais m'excuser auprès de mes amis de Fatuiva et particulièrement auprès de ceux de Omoa, dont j'ai souvent mal prononcé le nom tout au long de cette émission. En effet, la première version avait été enregistrée en 2016, puis corrigée en 2017, mais à l'époque je n'étais allé qu'une seule fois à Fatuiva en décembre 1998. En juillet 2022, s'est tenu à Fatuiva le Matava'a, auquel j'ai participé avec mes amis de l'académie et où nous sommes restés toute la semaine. Et c'est là, bien sûr, que j'ai entendu le nom authentique de Omoa. Je m'excuse donc, encore une fois, auprès de mes amis de Fatuiva. Et te tahoa, a hakoema ito upio.
À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Teeo et sur mon site internet teeo. Et merci au groupe Takanini pour sa chanson « Etauho, les temps nouveaux » qui nous dit bien que l'argent, inconnu aux temps anciens, ne fait pas nécessairement le bonheur de notre temps. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail copo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, à Pai, au Oahu.
No te ati.